Bonjour.
Pour rappel, on va faire une étude avec le Rafison sur Hanouka et enchaîne directement avec l'étude du Rav Yoel. Et on passe à la dictature. On demande à fermer les micros et garder ouvrir les micros pour la fin. Rafison, Shavuatov, quand vous voulez.
J'avoue, tort. Alors, est-ce que tu peux me permettre de partager?
Ah, mais avec plaisir. Normalement.
Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tov! Bon, les amis, shalom, les koulam et Boker Tov. Nous allons parler aujourd'hui de Hanouka, mais nous allons parler de Hanouka de manière un petit peu particulière. Pourquoi de manière un petit peu particulière? Parce que ce que nous allons essayer de faire durant notre petite étude de ce matin, c'est qu'on ne va pas faire une étude que sur Hanouka. En fait, nous allons parler des différents héros de notre histoire, des différents combattants de notre histoire, des soldats d'Israël, Bayamim Ahem ou Bazman Hazé. C'est-à-dire qu'on va évidemment parler aussi de Hanouka, mais en fait, on va partir sur toute l'histoire juive et on va voir qu'il y a eu des héros d'Israël, comme nos soldats actuellement, qui sont nos héros, qui sont nos modèles, qui sont nos Kohanim Kedoshim de notre génération. Donc, je vous propose qu'on aille maintenant en plein dans l'histoire d'Israël. C'est parti. L'histoire est pleine de vie. À chaque époque, son défi. Et rappelez-vous de cette phrase de Yigal Allon qui disait: un homme qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Allons-y, c'est parti. Alors,
Attends, on peut mettre en grand comme ça, on appuie en bas à gauche là sur le et comme ça on voit plus le côté
quoi?
en dessous où il y a les shkoufiot là, les détails 1, 2, 3, 4 avec
Ouais.
3% et à côté il y a un petit onglet.
Ah, mais moi je me suis mis en grand déjà.
Ah bon?
Ouais. Bizarre.
Parce que
Attends. Ça vous est pas mis en grand là?
non.
Ah, c'est un problème. Moi je suis en grand là. Je sais pas quoi vous dire.
Celui de gauche là, non?
Là c'est mieux?
Ah ouais, c'est mieux. Parfait.
Ok. Ça va pas. Alors allons-y. Donc on a cinq grandes périodes dans l'histoire juive. La construction de l'identité d'Israël, survivre à la destruction, au fond de l'exil, le réveil identitaire et la résurrection nationale. Les cinq grandes périodes telles que je les ai analysées. Alors allons-y, c'est parti. La construction de l'identité. On va passer sur les petits films, voilà, parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Donc allons-y pour la première étape qui s'appelle la construction de l'identité. Quel est le premier héros d'Israël, le premier grand combattant d'Israël, les amis? Moshe Rabbeinu. Vous connaissez cette statue de Moshe Rabbeinu, évidemment, la statue de Michel-Ange, de Moshe Rabbeinu avec ses fameuses cornes sur la tête. Vous voyez les cornes sur la tête? Parce qu'il a vu qui Karan Or Panav. Alors, Karan Or Panav, lui, il a compris que c'était Keren, que c'était une corne. Donc, on voit les cornes sur la tête de Moshe. Alors, Moshe, c'est la centralité de la Emouna. Attention, je suis pas en train de faire un récapitulatif des rabbins d'Israël. Non, 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 non. Je parle de Moshe, le combattant. Iné. Vayavo Amalek, vayilachem im Israël, berfidim. Vayomer Moshe el Yoshua, bechar lanu anashim, vetzei lachem ba Amalek. Machar, anochi nitzav al rosh ha-giv'a. ומטה האלוהים בידי, ויעץ יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. C'est la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu envoie Yoshua faire le combat sur le terrain, mais Moshe Rabbeinu devient les mains de la Emouna. La Mishnah va poser la question en disant: mais enfin, Vechi Yadav shel Moshe osot milchama, quoi, les mains de Moshe font la guerre? Comme si, parce que Moshe il lève les mains, alors on gagne, et quand on baisse les mains, on perd. C'est magique. Et la Mishnah nous dit: mais non, quand Moshe lève les mains et que Am Israël regarde vers le ciel, alors, eh bien, ils se rattachent à Kadosh Baruch Hu et ça leur donne les forces de gagner la guerre sur le terrain. En d'autres termes, Moshe nous sert de base de la Emouna, notre combat est le combat qui est légitime et il est guidé par Akadosh Baruch Hu. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut se battre, eh bien, c'est ne pas oublier que nous sommes Malé Emouna. Ça, c'est la première dimension. La première dimension, c'est Emouna, Emouna, Emouna. Une fois qu'on a terminé ça, alors on peut passer à la deuxième étape. Le deuxième héros d'Israël, Yehoshua ben Nun, sans peur et sans reproche. Vous voyez cette petite image magnifique dans laquelle Yehoshua arrête la course du soleil. Oui, parce que je parle d'un Yehoshua qui va, après la mort de Moshe, devenir le chef du peuple juif. Et c'est lui qui a été choisi par Dieu pour conquérir la terre d'Israël. Alors que Moshe Rabbeinu montre que le peuple juif est capable de se battre avec sa Emouna, et avec ses armes, mais avec sa Emouna, eh bien Yehoshua va être celui qui va devoir conquérir la terre d'Israël. « Az yedaber Yehoshua la Hashem, beyom tet Hashem et haemori lifnei bnei Israël, veomer leinei Israël, shemesh begivon dom, veyareach beemek hayalon, veidom Hashemesh veyareach hamad, ad yikom goy oyvav. » הלא היא כתובה לספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמים, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. יהושע est le prochain dirigeant du peuple juif après Moshe. Il doit conquérir la terre d'Israël, et dans le premier chapitre du livre de Yehoshua, Dieu va lui dire quatre fois, Chazak ve'ematz. Sois fort et sois vaillant. Chazak ve'ematz. Pourquoi quatre fois? Eh bien, me disent nos sages, je vais te donner quatre coups de main. Quatre coups de main pour que la conquête de la terre d'Israël puisse se réaliser. Mais c'est à toi de la faire. Mais moi, je te donne quatre coups de main. Quatre miracles qui auront lieu durant la guerre de Yehoshua. La traversée du Jourdain, le Shemesh Begivon Dom, les pierres qui tombent du ciel, l'embourbement des chars ennemis. Les amis, Yehoshua va mener les combats sans peur et sans reproche. Car lorsque tu es Malé Emouna, eh bien, tu as la force de dire au monde de s'arrêter parce que nous, nous sommes en train de nous battre. Moshe nous a montré le chemin en nous rappelant qu'il fallait lever les yeux vers le ciel. Yehoshua concrétise cet enseignement en disant, eh bien, très bien, puisque c'est comme ça, j'invoque l'aide d'Akadosh Baruch Hu au moment où je me bats. C'est pas j'invoque l'aide de Dieu et moi je suis à la maison au Beit HaMidrash. Non! Ça, c'est mal connaître Yehoshua. Yehoshua, il se bat sur le terrain et il dit, Ribono Shelolam, c'est maintenant ou jamais? Tu viens m'aider ou tu viens pas m'aider? Eh, si tu m'aides pas, je le ferai quand même. Mais viens, allez, avec nous dans la bataille. Moshe, c'est la théorie. Yehoshua, c'est la mise en pratique. Alors, une fois qu'on a terminé avec la conquête d'Israël, eh bien, on va pouvoir commencer à se poser la question du comportement de nos soldats. Nos soldats sont extraordinaires. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, nos soldats sont magnifiques. Mais la question, c'est d'où on sait que nos soldats sont si fantastiques? Eh bien, on regarde leur comportement. J'ai des questions extraordinaires qui m'viennent de soldats, de parents de soldats. Ils sont très. J'ai des parents qui m'ont appelé. Ils sont extrêmement inquiets de si la neshama de leur fils sur le front va être perturbée ou pas. Et pourquoi? Parce que, eh bien, le fils leur a dit que, vous savez, papa, maman, quand on a deux secondes de répit, même pendant Shabbat, eh bien, on fume une cigarette. Et les parents étaient choqués. Ils m'ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est permis? C'est pas permis? Et je leur avais expliqué avant que, par exemple, pour la cacheroute, eh bien, on ne doit pas se poser la question dans Gaza de savoir si c'est cachère ou pas. Parce qu'on doit s'occuper, être prêt à 100% de la guerre. Eh bien, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne fume pas, je ne sais pas si c'est vraiment relaxant ou pas. Mais si le fait de fumer une cigarette permet de rester focus sur la guerre. Alors évidemment que c'est permis pendant le Shabbat, de la même façon que c'est permis de se faire un café avec un koum-koum électrique pendant le Shabbat, si c'est pour rester réveillé pendant la guerre. Donc, il n'y a pas de problème. Et en fait, analyser les comportements de nos soldats aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'on voit que nos soldats, c'est des tzadikim. Vous avez entendu depuis les 2 derniers mois de la guerre, vous avez entendu beaucoup de cas de soldats d'Israël qui ont violé des belles captives, qui ont violé des Ishaï Efat Tohar. Ben non, parce que nos soldats, c'est des tzadikim. Qu'à l'époque de la Torah, elle a permis la belle captive en disant Dibra Torah Keneged Yetzerara. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement au-dessus de ça, on est tellement tzadikim, qu'il n'y a pas ça. Bon, vous me direz peut-être que nos soldats, ils voient pas si elles sont belles ou pas, parce qu'elles sont voilées en entier. C'est une grande question, j'ai une grande question. Les amis, c'est pour ça qu'après Moshe et Yehoshua, je vous amène chez Gidon. Gidon, Ben Yoash, Hachofet. Et Gidon, il doit se battre. Il doit se battre contre Midian. Et il rassemble une armée incroyable. Seulement Dieu lui dit, mais non, mais cette armée, elle est beaucoup trop grande. Et en plus, elle est faite de gens qui ne sont pas prêts à se battre. Et donc, il va avoir une vérification pour savoir qui peut participer à la guerre. Alors d'abord, Gidon dit, celui qui a peur, il rentre chez lui. T'en as plein qui rentrent chez eux. Et sur les 22 000 du début, il n'y en a plus que 10 000 qui sont là. Et après, Gidon va faire un deuxième test. Il arrive devant une rivière, enfin une rivière, une source, parce que là, le dessin, il montre une rivière, c'est plus une source, et à l'endroit qui s'appelle Ein Harod. Vous pouvez aller vous balader. Ein Harod, dans le nord d'Israël. Et là-bas, eh bien, alors que tout le monde a soif, il dit, allez boire. Et la vérification est simple. Celui qui se prosterne au sol pour aller boire de l'eau, eh bien, c'est celui qui a une tendance à se prosterner. C'est celui qui n'est pas celui qui représentera le peuple juif. Par contre, celui qui va se pencher, ramener l'eau à sa bouche, alors celui-là, eh bien, est celui qui est un être humain, qui ne se met pas au sol tel un chien, qui n'a pas l'habitude de se prosterner, qui comprend que c'est à lui de ramener l'eau à sa bouche, comme un homme qui n'est pas un animal qui se baisse la tête vers la nourriture, mais un homme qui élève la nourriture à lui. La grandeur morale de nos soldats, Gidon. Donc Moshe, la théorie, Yehoshua, la mise en pratique, Gidon, la valeur morale de notre identité, de nos soldats. Vashkem Merubal, ou Gidon, Vecholam, Sherito, Vayachanouen, Al Ein Charod, ou Machane Midian, Ayalo, Mitsafon, Migiva, Amore, Migivat Amore, Vahemek, Vomer Hashem El Gidon, Rava, Masheritach, Mititi El Midian, Beyadam, Pen, Yitpaer Allah, Israël, Lemor, Yadi, Oshiali, Vata, Kirana, Beozneam, Lemor, Miyare, Becharet, Yashov, Yitzpor, Maher El Gilad, Yashov, Minaam, Esrim, Ushtaim, Elef, ו10,000 נשארו. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוג בלשונו מן המים, כאשר ילוג הכלב תציג אותו לבד, וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות, ויהי מספר המלקקים בידם על פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. ואומר השם את גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. J'ai simplement lu les versets qu'on a expliqués ensemble. Donc, Moshe, Yehoshua, Gidon. Shimshon Agibor. Shimshon Agibor. Eh oui, vous connaissez cette chanson qu'on entend maintenant dans tous les camps militaires, dans tous les mariages en ce moment. Vous connaissez? Zochenina, Zochenina. Tachaskenina. Achapamaze. A Elokim achapamaze. ואין נקמל גם אחד משתיני. אהוי, שמשון הגיבור. בוא נלך שמשון. שמשון הוא celui qui se bat pour le peuple juif. Il est prêt à être seul dans le combat. Mais s'il est prêt à aller se battre seul, il ne partira pas seul. Il se battra pour l'honneur d'Israël jusqu'au bout. Et lorsque finalement il sera pris, trahi par les siens, et il sera pris dans le temple à Gaza, il ne demandera qu'une chose à Dieu. Aide-moi à ne pas mourir seul. Aide-moi à continuer le combat, même au moment où je pars. Je sais que mon combat, moi, s'arrête, mais il est hors de question que mon combat s'arrête sans battre mes ennemis. Et donc, Shimshon demande à Kadosh Baruch Hu, « Vaikra Shimshon el Hashem vayomar, Adonai Elohim zocheni na vechaskeni na hapam hazeh Elohim, veinakma nekam achad mishte enai mipelishtim. » וילפוט שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד במינו ואחד בשמאלו ואומר שמשון תמות נפשי עם פלישתים וית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. Alors que Shimshon avait déjà réussi à tuer des centaines d'ennemis, il en tuera plus le jour de sa mort que durant toute sa vie. Shimshon est prêt à défendre l'honneur d'Israël quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive. Cette abnégation de nos soldats, on la retrouve aujourd'hui au quotidien. Bien sûr qu'on leur souhaite de tous rentrer sains et saufs, en bonne santé, mais ils sont tous prêts à mourir pour l'honneur d'Israël, pour nous protéger, pour que nous on puisse faire le cours ce matin. On leur doit tout. À nos soldats extraordinaires. Moshe Rabbeinu, l'idéal de la Emouna. Yoshua, fort de cette Emouna, j'invoque Akadosh Baruch Hu pour qu'il soit avec moi. Gidon dit ok, mais Akadosh Baruch Hu, il vient aider un peuple qui le mérite. Et nous sommes des soldats extraordinaires. Shimshon, je suis prêt, moi seul, à me battre pour l'honneur du peuple juif. Et après, on dit que les juifs ne sont pas capables de se battre. Vous avez entendu parler de cet homme-là? David, Melech Israël, Chai Chai Bekayam. Que des chansons ce matin. David, Melech Israël, Chai Chai Bekayam, celui qui n'abandonne jamais. Voilà ce verset de Tehilim que vous connaissez. C'est ce que dit David. Erdof Oivai Veasigem Velo Ashuv Ad Kalotam. C'est ce que disent tous nos Milouim Nikim. C'est ce que disent tous nos réservistes. C'est ce que dit heureusement notre gouvernement. Je vais poursuivre mes ennemis et je les rattraperai et je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas tous éclatés. Oui, il y a eu une trêve humaine, une trêve pour les otages. On est très, très, très heureux que tous les otages qui ont pu rentrer sont rentrés sains et saufs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter les combats. On va poursuivre notre ennemi et on les rattrapera et on ne rentrera qu'après les avoir éradiqués. Tout ça, on l'a appris de David. Mais en fait, David, il n'est pas tout seul. David, il puise la force de Shimshon, le discernement de Gidon, la vaillance de Yoshua et l'idéal de Moshe. Donc, voilà les cinq grands personnages de la première partie de la construction de l'identité d'Israël que sont Moshe, Yoshua, Gidon, Shimshon, Ve. David. Ouah, ça en fait des combattants. Et puis après David, nous avons un dernier personnage. Un dernier personnage qui marque le début de l'exil. Vous le connaissez cet homme, Mordechai. Eh oui, Mordechai à Yehoudi. Ah ah, mais attendez, Mordechai à Yehoudi. Mais Mordechai, il a une technique très particulière. Mordechai, d'abord, c'est un combattant. Je croyais que c'était un rabbin. Mais non! Mordechai, avant l'histoire de la Megillat Esther, il fait quoi dans la vie? Eh bien, nous dit le Midrash que Mordechai était général en chef des armées de Achashverosh. Regarde, Aman aussi, dans la guerre qui a opposé Achashverosh Assuérus, Xerxès, aux Grecs, dans ce qu'on appelle les guerres médiques, eh bien, le combat mené aux Thermopyles, le combat mené par les Perses dans les gorges chaudes aux Thermopyles contre Léonidas et ses 300 Spartiates, qui étaient en manque de chocolat, évidemment, Léonidas, eh bien, celui qui mène les Perses au combat n'est autre qu'un général perse qui s'appelle Mardour, Mordechai. Eh oui, les amis. Mais sauf que Mordechai, pour réussir à protéger le peuple juif, puisqu'il va devenir le Mordechai que nous connaissons dans la Megillah, eh bien, il a dû d'abord s'infiltrer. Il a dû d'abord, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Se fondre dans le décor. Eh oui, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a dit avec Moshe, Yehoshua, Gidon, Shimshon et David. Nachon. Mais quelle est la différence ? C'est que Mordechai, c'est le début de l'exil. Mordechai, il n'est plus souverain. Mordechai, il est maintenant soumis au bon vouloir. Hop, au bon vouloir des Perses. J'étais un peu vite. Voilà. Il est soumis au bon vouloir des Perses. Donc, quand tu es soumis au bon vouloir des Perses, bah, tu es bien obligé de trouver un stratagème. Et le stratagème, eh bien, c'est quoi ? C'est de se faire passer pour un Perse pour finalement arriver à mettre en avant les intérêts du peuple juif. C'est évidemment pas un idéal, mais c'est une nécessité du moment. Attention, il ne s'agit pas de la taqiya musulmane. Il ne s'agit pas de se faire passer pour un Perse pour finalement détruire l'Empire Perse. Non, 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 non. Il s'agit toujours d'avoir à l'esprit les intérêts du peuple juif. Pour pouvoir les protéger, il faut être dans des postes à influence. C'est tout. Ça ressemble à un, comment il s'appelait, le chef de cabinet là, de Trump, Kushner, un bon Américain juif qui va pouvoir aider le peuple juif. Bon, des fois, il y a des juifs qui sont un peu trop imbriqués dans les gouvernements et qui oublient un petit peu d'aider le peuple juif. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ça a l'air, donc ça, c'est Mordechai. Oui, mais il y a un moment donné, quand on est en exil, on a envie de ramener l'honneur du peuple juif. Et les amis, nous arrivons à notre Yehuda Maccabi, à notre histoire de Hanouka. Eh oui, les amis! Alors, on connaît l'histoire de Hanouka. J'avais moi-même fait un cours une fois, je pense que c'est il y a 2 ans, 3 ans, sur l'histoire de Hanouka, sur pas un cours de Torah, mais uniquement l'historique des guerres menées par Yehuda Maccabi, de Hanouka, les guerres contre les Grecs, qui, comment, où, qui, combien. Yehuda Maccabi, vous savez ce qu'on fait jamais? Vous savez ce qu'on fait jamais? Eh bien, on fait jamais ça. On ne fait jamais ça. C'est-à-dire, on n'étudie jamais les textes de Yehuda Maccabi. On sait que c'est un grand combattant, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda Maccabi ? Alors, regardez. « Ve'yagia siron ad ma'ale bet horon, ve'yetze Yehuda likrato bimte me'at, ve'kirotam et amachane abba likratam amru li Yehuda, איך נוכל אנחנו המעטים להילחם עם ההמון החזק הזה ואנחנו עייפים, לא אכלנו יום? Comment on va faire? On est peu nombreux, ils sont beaucoup trop. On n'y arrivera pas. ויאמר יהודה נקל כי יעשו גרור רבים בידי מעטים ואין מעצור לפני שמיים להושיע ברבים או במעטים. Yehoshua, il commence son discours. Yehuda commence son discours. Et il dit, nous gagnerons, on y arrivera. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune barrière devant les cieux. Et Akadosh Baruch Hu, il peut très bien faire donner la victoire aux nombreux, comme aux peu nombreux. Kilo berov chayil nitzachon amilchama, uminashamayim agevura. Ce n'est pas le nombre des combattants qui fait la guerre. Ils viennent Nombreux, pleins de fierté, d'orgueil, ils viennent pour nous détruire, ils viennent pour s'attaquer à nos femmes, à nos enfants. Et nous, on se bat pour nos vies, pour notre Torah. Et Dieu nous aidera à les détruire. N'ayez pas peur d'eux. Kacher, qu'il a les d'aber, nafal aleem, pitom, vinagev sirom, ou machane ou lefanav. Et quand il a fini de parler, les combats ont commencé. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin de ce combat contre Siron? On les a éclatés! Le combat de Beth Horon a été une victoire fantastique où Yehuda, avec 800 hommes, 800 hommes, a réussi à battre les 10 000 hommes de Siron. Parce que nous, on sait pourquoi on se bat. Enfin, lui, il savait pourquoi on se bat. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait pourquoi on se bat? Si Mordechai, il est capable de faire des tralouides pour nous protéger, c'est ce qui se passe en exil. Yehuda, lui, vient nous dire, mais il faut, pour pouvoir gagner, savoir pourquoi on se bat. On se bat pour notre identité, et on se bat pour notre Torah, on se bat pour Am Israël. Nos soldats, ils savent aujourd'hui pourquoi ils se battent. Des fois, j'aimerais bien que nos dirigeants, ils s'en rappellent aussi. Mais nos soldats, eux, ils savent. Alors les amis, maintenant qu'on a dit ça, on est quand même obligé d'être réel et on sait qu'à un moment donné dans l'histoire, après la grande victoire de Hanouka, eh bien va arriver la destruction de Rome. Et lorsque le peuple juif va en être à sa destruction face à l'Empire romain, j'aurais pu marquer ça, le 2, survivre à la destruction après la destruction de Babylone. Mais, encore une fois, on s'est relevé rapidement. Il y a eu le deuxième temple. Et puis après la destruction du temple. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à la destruction? Eh bien, les amis, nous avons un homme dont on ne parle pas assez, qui s'appelle Rabban Shimon Ben Gamliel. Son tombeau qui est juste ici devant vous en photo. Rabban Shimon ben Gamliel, Nessi à Sanhedrin. Il est le chef du Sanhedrin à l'époque des combats contre les Romains. Et lui, il dit, il faut se battre au nom de Dieu. Ukshe tafsu et Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael Leareg. Haya Rabban Shimon ben Gamliel yoshev et toe bedaato ve omer. Oy lanu. שאנחנו נהרגים כמחללי שבתות וכעובדי עבודה זרה וכמגלי עריות וכשופכי דמים והיו מתחננים לאסקפלטו על פסו רומן כתפסו זה אמר אני כהן בן כהן גדול ארגני תחילה ואל הרי במיטת חברי וזה אמר לו אני נשיא בן נשיא ארגני תחילה ואל הרי במיטת חברי אמר להם הפילו גורלות, והפילו ונפל הפור על רבן שמעון בן גמליאל, מיד נטל החרב וחתך את ראשו, ונטלו רבי שמעון רבי ישמעאל בן אלישע והניחו בחיקו, והיה בוכה וצועק, פה קדוש, פה נאמן, פה קדוש, פה נאמן, פה שמוציא סנדלפונים טובות ואבנים טובות ומרגליות, מי? את מנחה באפר, ומים שמילה לשונך אפר ואפר, עליך הכתוב אומר, חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, ולא הספיק לגמור הדבר עד שנטלו החרב וחתכו את ראשו. הטקסט très dur d'avoir de Rabbi Nathan, qui voit la mort de Rabban Shimon ben Gamliel et de Rabbi Ishmael. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, qui est tellement, même au moment de sa mort, qui veut l'Ekadesh Shem Shamayim, Rabban Shimon Gamliel était un des membres des Zélotes. Il faisait partie des Canaïmes qui se sont battus contre les Romains. Il est le chef de la Torah et pourtant il dit qu'il faut prendre les armes contre les Romains. Parce que c'est l'honneur d'Israël et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui est en jeu. Alors est-ce qui s'est passé il y a 2 mois pour nous, c'est Chilul Hashem Gadol. Donc on doit ramener l'honneur d'Israël, être prêt à se battre pour l'honneur d'Israël et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu? Lorsque le combattant a été vaincu. Alors, cher Rabban Shimon Gamliel, tu as été vaincu, tu as été malheureusement mis à mort. Il y en a d'autres qui n'ont pas été mis à mort, comme Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, qui à partir du moment où il a été vaincu et qu'il est ramené comme esclave à Rome, oui, car il ne faudrait pas oublier qu'il est esclave à Rome, même si c'est un esclave de luxe, c'est un esclave quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va écrire l'histoire d'Israël, l'histoire des combats. Écrire pour ne pas oublier. Écrire pour garder un semblant d'identité. Dira Antek Zuckerman, un des survivants de la révolte du ghetto de Varsovie, il dira, nous n'avons pas fait cela, il écrira cette phrase, nous n'avons pas fait cela pour vaincre l'armée allemande, mais nous avons fait cela pour laisser trois lignes sur nous dans les livres d'histoire, pour que l'humanité sache que le peuple juif n'a pas totalement baissé la tête. Flavius Joseph racontera l'histoire du peuple juif. Et il dit à sa père Bidiouk Rav, et Maase Shenat Zdadim, Achalashon She Ibacher Ba, Letaer Otam, Tevate et Mizgei, Veteaf Sherli, Lekonen Alasonot Ir Moladeti, Ir Riv Mibait. Rabbi Joseph est là pour rappeler au monde l'histoire du peuple juif. Alors, Botaï, une fois qu'on est au fin fond de la destruction, eh bien, il y a une volonté de se révolter, la volonté de continuer le combat, de retrouver notre identité. En fait, ce que Shimon Bar Korva va essayer de faire, c'est ce que Yehuda Maccabi avait réussi à faire. La révolte des Maccabim contre les Grecs, ça a réussi, c'est fantastique. Mais la révolte de Bar Korva, c'était ça aussi. Est-ce que Bar Korba avait les mêmes idéaux que Yehuda? Alors non. Yehuda, alors qu'il dit « Akadosh Baruch Hu nous amènera la libération », eh bien Bar Korba lui dit à Dieu « N'interviens pas, laisse-nous gérer ». Certains ont pris ça comme étant une révolte contre Dieu. Ou alors, il est seulement là en train de dire « On en a assez, on a assez ». Essayer de se remettre que à toi. On veut agir. On veut agir, Ribono Shel Olam. Comment je sais que Bar Korba n'est pas révolté contre Dieu? Bien, la première chose, c'est que Rabbi Akiva continue à le soutenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé des parchemins, des lettres de Bar Korba, qu'il envoie comme la lettre que je vous ai montrée ici, qu'il envoie à En-Gedi, dans laquelle il ordonne au village de En-Gedi de donner suffisamment de loulavim et de etrogim pour la fête de Sukkot pour les soldats d'Israël. On voit que c'est quelque chose qui est important dans la aspaka, dans le fait qu'il ramène ce qu'il faut pour les soldats. Il y avait de la nourriture, il y avait ce que tu veux, mais il n'a pas oublié de dire qu'il faut ramener loulav et etrog, des Sukkot. Quelqu'un qui serait révolté contre Dieu, je ne sais pas s'il aurait pensé à ramener loulav et etrog. Amrou, 12,000 zugim talmidim ayu lo lerabbi Akiva, migivat ad Antipatres, et kulam metu beperek echad mipnei shelo nahagu kavod ze bazeh. Vous savez, c'est la fameuse Gemara dans Yevamot qui parle de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais où étaient les élèves de Rabbi Akiva? Où sont-ils morts? Alors on sait qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns pour les autres, mais ils sont morts où? Ils sont morts à la guerre de Bar Korva, comme c'est marqué noir sur blanc dans la Higueret de Rabbeinu Shlira Gaon. Donc même dans l'exil, on essaie de survivre en se révoltant et en retrouvant notre identité. Des fois, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, après la défaite de la grande révolte de 66 à 70, de la révolte de Bar Korba de 132 à 135, eh bien, le peuple juif est obligé de vivre au fin fond de l'exil. Mais est-ce qu'au fin fond de l'exil, on aura oublié complètement, encore une fois, notre identité? Vachuvai bevadai shelo. Regardez cet homme. Shmuel Anagid, Shmuel Hanagid, qui était le grand vizir de Grenade. Il était le chef d'état-major des armées de Grenade. Mais il était aussi Gdol, 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 Amefarshim. Il était parmi les plus grands des Rishonim. Il a écrit des Piyoutim, en veux-tu, en voilà. Il écrit sa dernière lettre. Ani ozev otra Grenada. שהיא תהיה לסמל של עוז, של שלום ושל אחווה בין מוסלמים, נוצרים ויהודים, שלא ישכחו בני האדם איך חיינו ביחד בתור הזהב. Nous dit Shmuel Hanagid, quand c'était moi le patron de Grenade, j'étais le grand vizir, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait shalom. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, quand c'est Am Israël qui gère, il y a shalom. Quand c'est pas Am Israël qui gère, nous, ben maître. Aïe, 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 aïe. Mais qui t'sort? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il paraît que nos femmes, elles sont plus intelligentes que nous, elles ont plus de névoie que nous. Donc je ne dois pas comprendre quelle est la grandeur derrière la cuisine du dimanche matin de 9h38 du matin. Je gagnerais que je suis pas au niveau pour comprendre. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Shmuel Hanagid, au fin fond de l'exil, on est au 10e siècle, mais il devient le chef d'état-major qui réussit à amener la paix entre les peuples en faisant la guerre. Il a fait la guerre énormément, Shmuel Hanagid. Mais il a réussi par son charisme et sa force de faire en sorte que les différentes peuplades qui étaient à Grenade, eh bien, arrivaient à vivre ensemble. Alors, Shmuel Hanagid, lui, il était combattant. Il avait des responsabilités politiques. Qu'en est-il de Rabbi Moshe ben Maimon, quelques 150 ans plus tard? Ben, tous ceux qui me suivent, on étudie en ce moment, tous les matins, les Ilchot Melachim, les lois sur les rois et les guerres du Rambam. Car le Rambam a une vision politique de la Halakha. Il ne se contentera pas d'Ilchot Shabbat. Il fera également Ilchot Milchama, Ilchot Medina. Au fin fond de l'exil, on pense à comment on va recréer un pays politique. Il sera également le médecin et le conseiller de Saladin qui permettra aux Juifs de revenir à Jérusalem. Peut-être parce que son médecin, c'était le Rambam. Shalosh mitzvot nitzavu Israël beshat knisatam la'aretz, la'aretz, lemanot lahem melech, shenemar som tatsim alecha melech, ולהחית זרו של המלך, שנאמר תמחה את זכר המלך, ולבנות בית הבחירה, שנאמר, ולשכנות תדרשו בת השמה. נודי לו רמב״ם, alors qu'il aurait pu se contenter, comme le Shulchan Aruch, d'avoir une vision halachique exilique, נודי לו רמב״ם, non, on va avoir également une vision de quand on reconstruira notre état, notre armée, et on saura comment faire la guerre à ce moment-là. Au fin fond de l'exil, on réfléchit à l'après. Et puis des fois, on est obligé de se cacher. De se cacher pour pouvoir se préserver et grandir après. Je parle de Don Carlos Carniero, qui n'était autre que l'amiral en chef de la flotte portugaise. Complètement marane, complètement caché derrière une croix chrétienne. En secret, le dirigeant de la communauté juive cachée des Maranes, il va réussir à faire échapper une grande partie des Juifs du Portugal vers le Brésil, où ils pourront retrouver leur identité juive. L'Inquisition espagnole. Se cacher pour se préserver. Don Carlos Carniero. Et voilà ce qu'il écrit, Don Carlos, à son maître, Rabbi Menashe ben Israël, Bisfarad et Madti Panay Notzri, qui chavivi même achaim, achmeolam lo asiti zot eitev, vechol vechach nitgala shelo haiti ela yehudi, sham mul pene asakana, shel ovdan achofesh, akavod varechush veafachaim, haiti la mito shel davar yehudi, Venotsri rak le marit ein. Je n'ai jamais abandonné mon identité et au contraire, je suis resté un juif fier qui a réussi à faire sortir des centaines de juifs du Portugal pour finalement arriver au Brésil et retrouver leur identité. Des fois, en exil, on n'a pas le choix que de se cacher pour se préserver. Ça aussi, c'est de la gvoura. Mais attention, il y en a qui ne sont pas prêts à se cacher. Il y en a comme Rabbi Shmuel Palachi, le chef des pirates juifs des Caraïbes. Oui, vous m'avez bien compris, un pirate. Un pirate avec sur sa tombe la tête de mort des pirates et marqué en hébreu. Cet homme qui sur son bateau, qui ne vogue pas le Shabbat, qui a deux cuisines sur son bateau, mais qui va se battre contre tous les navires espagnols pour leur faire payer l'expulsion des Juifs d'Espagne. La revanche de Rabbi Shmuel Palachi, le pirate juif. Rabbi Shmuel Palachi, Rabbi Menaché Ben Israël, ces gens qui ont compris qu'ils sont en train de reconstruire l'exil, la fin de l'exil, etc. Ils sont en train de reconstruire le réveil identitaire. Alors les amis, on y va. C'est parti, quatrième partie. Le réveil identitaire. Don Yosef Nassi et Dona Grazia Nassi. Le duc de Naxos et sa tante, qui, en tant que chef du gouvernement de l'Empire ottoman, vont racheter Tibériade. L'exonérer d'impôts pour ramener les juifs là-bas. Ramener les rabbins là-bas. Faire en sorte de créer une autonomie dans la Galilée. C'est le début de la résurrection. Des hommes politiques qui ont décidé de mettre en place le début de la résurrection identitaire. Rabbi Yehuda HaChassid, Rabbi Yehuda HaChassid qui, contre toute attente, rassemble 1500, enfin non, à la base, il rassemble 3000 juifs de Pologne, d'Ukraine, d'Europe de l'Est. Et il décide de traverser le monde pour venir à pied jusqu'en Eretz Israël. Parce que c'est là-bas que leur retour va s'opérer. Finalement, il y en a beaucoup qui mourront en chemin et vont arriver en Eretz Israël, 1500 personnes. Ils arrivent tous à Jérusalem. Et en un instant, ils doublent le nombre de juifs dans la ville qui était de 1200 juifs avant l'arrivée de Rabbi Yehuda HaChassid et ses hommes. Ça redonne du punch à la Jérusalem juive. Bon, malheureusement, Rabbi Yehuda HaChassid, qui construira la synagogue de la Chourva, que vous voyez ici en image, eh bien, mourra 3 jours après l'inauguration de la synagogue, mais le retour était amorcé. Évidemment, avec des hauts et des bas, mais le retour était amorcé. אסור לו ליהודים ממדינתנו, מפולין או מארצות אשכנז אחרות להיכנס לירושלים, אלא אם כן הוא מלובש במלבושי תורג'מה, זאת אומרת ספרד, הוא מדבר בלשון תורג'מה, ערבית, עד שאין יודעים בו שמאשכנז הוא, וכל זאת בגלל מעשה חבר החסידים שעלו עם רבי יהודה החסיד השני. Rabbi Yehuda HaChassid, lorsqu'il meurt de manière brusque, les Juifs qui sont venus avec lui, qui ont construit la Chourva et qui ont emprunté de l'argent aux Arabes, ne sont pas capables de leur rendre l'argent. Et donc les Arabes vont brûler la synagogue, ils vont interdire aux Juifs ashkénazes, tant qu'ils n'ont pas payé leurs dettes, de venir habiter à Jérusalem. Et donc, pour que les Juifs ashkénazes puissent habiter à Jérusalem, ils devront s'habiller comme des Juifs séfarades qui, eux, n'ont pas de dettes envers les Ottomans. Et donc, c'est une période assez incroyable où c'est les Juifs ashkénazes qui se sont habillés en séfarade et qui ont parlé en arabe pour pouvoir habiter à Jérusalem. Bon, le réveil, c'est bien, mais la résurrection nationale, c'est mieux. Alors, comment ça commence? Nous devons lui rendre hommage à cet homme-là. Je pense qu'on ne lui rend vraiment pas assez hommage. Au baron Binyamin Edmond de Rothschild. Parce que Enmalasot, Vous pouvez me la jouer comme vous voulez, mais celui qui a rendu tout cela possible, c'est lui. Et je pense que toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, qui n'ont pas encore été une fois dans leur vie sur la tombe du baron de Rothschild, pour aller lui dire merci, eh bien, je pense qu'il faut le faire. Mamash. En plus de ça, c'est un très joli tioul parce que le tombeau du baron de Rothschild, Gananadiv, c'est assez magnifique. Mais, franchement, on doit lui dire merci. C'est grâce à lui tout ça. Regardez cette carte. Regardez cette carte. Tous les points rouges, c'est les terrains que Rothschild a achetés et qu'il a construits là-bas des villages. Vous savez, je ne sais pas si on se rend compte, mais il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'État d'Israël s'il n'y a pas le baron de Rothschild 50 ans avant. Il faut en être conscient. Et c'est quelqu'un qui a été un actif dans la résurrection nationale. Certes, pas avec les armes, mais avec le chéquier. Il y en a plein d'autres qui ont des chèques. Mais est-ce qu'ils les font pour la bonne cause? Le baron de Rothschild, oui. Ah, il y a notre Johnny Hallyday à nous. Ouais, vous rigolez pas. Il s'agit d'un rabbin qui est sur une moto. Alors d'abord, ça ne veut rien dire parce que à l'époque du rabbin, il n'y avait pas de moto. Va expliquer pourquoi les habitants de Petah Tikva sur le kikar de l'entrée de la ville l'ont représenté non seulement sur une moto, mais vous ne voyez pas, mais derrière lui, il y a des ailes. Genre, c'est vraiment un biker. C'est vraiment un pote à Johnny. On parle de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est pas sur une moto qu'il se baladait, c'était sur un cheval avec son arme. Et il est venu construire Petah Tikva. C'est lui, Petah Tikva, les amis. Alors qu'il voulait construire d'abord un Petah Tikva à côté d'Yericho, finalement c'est pas possible, donc il va le construire à Petah Tikva et il va construire une ville dans un marécage où tout le monde lui dit que c'est pas possible. Et aujourd'hui Petah Tikva est la quatrième plus grande ville d'Israël. Ou comme Moshe Amarti dit Rabbi Yoel Moshe, ou comme Moshe Amarti bebet haKnesset kach asinu, banu rechuvim al susim. Im rovim mukhanim velo natanu la porim lignov lano et admatenu. Oui, car au moment où il construit, eh bien les Arabes de la région viennent à chaque fois les attaquer. Et dit Rabbi Yoel Moshe, nous on s'est mis sur nos chevaux avec nos armes et on les a pas laissés nous voler notre terre. Et aujourd'hui, il y a Petah Tikva. Voilà les amis, la résurrection nationale. Zev Jabotinsky, les brigades juives, il est temps de réapprendre aux juifs à être des soldats. Pas seulement des individus avec une arme, mais des soldats. Et il va construire la Brigada Yehudit, les brigades juives qui vont servir dans l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale. Et il va créer la charte du Bétar. Ani makdish et chayai. לתחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים על שתי גדות הירדן, קדמה וימה. דבור, je vais donner toute mes forces à créer un état juif. לתועלת הבניין הממלכתי, אשעבד את תועלתי אני, את תועלת ביתי, את תועלת מעמדי. Je mettrai tous mes efforts au service du bien commun, de l'état, et pas de ma petite personne. השפה העברית תהיה שפתי ושפת בני, בני עם ישראל, בארץ והם בגולה. זאת אומרת, je parlerai hébreu. C'est comme ça que je retrouverai mon identité. אכין זרועי להגנת עמי ולכבוש מולדתי. Je préparerai mon bras pour la défense de mon peuple et la conquête de ma terre. C'est pas rien, les amis. C'est pas brun, c'est pas rien. Et puis il y en a un autre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David Green, enfin plus connu sous le nom de David Ben Gurion, qui va dire cette phrase: Lefichach, nitkanasnu, anu, chavrei moetzet ha'am, netzigei ha'yishuv ha'ivri v'atnua ha'tzionit, biyom siyum ha'mandat ha'briti al eretz Yisrael. ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. רבותיי, דוד בן גוריון, la résurrection nationale. Alors je vais terminer ma rétrospective par une histoire. J'aurais pu, parce que si je me suis posé la question, est-ce que je ne vais pas mettre des noms de soldats et faire la gvoura des soldats d'Israël d'aujourd'hui, de Tzahal? Mais je me suis dit, il y en a trop. Donc j'ai pris un soldat, une histoire, et c'est avec cette histoire qu'on va terminer, les amis. Alors regardez bien cette photo. Il n'y a pas un couple plus joli que ce couple-là, c'est pas moi, évidemment. Elle, c'est une Kala, Tzadika, Dibora, tout ce que tu veux. Et lui, c'est le Khatan Tzadik. Alors les amis, voilà, je ne sais pas si ça va marcher.
Il faut, sinon départage et repartage.
Attends, c'est pas le bon.
On partage. Ah,
attends. Voilà, deux secondes.
Et partage écran et pas...
Ouais, deux secondes. Ça a bugué. C'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Tout va bien, deux secondes, ça vient. Ne me mettez pas la pression. Ne me mettez pas la pression. Voilà. Voilà.
Une pression, personne regarde.
Hein?
Aucune pression, personne regarde.
Alors, hop là, voilà. Hop là, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Voilà. Alors, attends, voir. Maintenant, je vais vous repartager l'écran comme il faut. Hop là. Yofi. Hop là.
Cliquez en bas avec écrit.
Ouais, ça y est, c'est fait. C'est parti. C'est bon, vous voyez?
Mm-hmm.
C'est parti. Ce que vous voyez, c'est les fiançailles. Chatan et Zakala, le plus important, c'est de remercier à Kadosh Baruch dans chaque situation. C'est une vidéo qui date de 2009. Et en 2009, cet homme qui s'appelle Aaron Karov, il va se marier. Son mariage est un peu particulier. Pourquoi il est particulier son mariage? Parce que, bien qu'on voit ici l'énormément de Simcha, une grande partie de ses copains n'est pas avec lui. Parce qu'il est même fait, il est officier de Tzadkhanim. Et son unité est déjà à Gaza pour la guerre qu'on a menée en 2001 après au ferret des brigades dans le tous ces soldats à la base lui font des vidéos. Voilà, quand il voit les vidéos avec ses soldats, il danse avec ses copains. Et sous la roupa, son père, le père du Khayal, qui est le Rav du Yishuv, va faire la bracha pour les Khayalim. Et pour son fils aussi. Parce que là, il est parti, il se marie. Et demain matin, il part retrouver ses hommes sur le front. Ça avait fait. Voilà ce qui se passe. Il rentre avec une unité dans une maison qui est détruite. Et la maison
explose.
Et Aaron Karov est bien bon blessé. Il est arrivé à l'hôpital. Tous les jours, on parle de lui. Le Khatan n'est plus pas y aller. Et pas quand même. Il commence à ce moment-là, quelques semaines, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui va s'en sortir, sa femme est à son chemin, évidemment. Quelle force! Dans le monde entier, Bon, rabbin de l'armée vient le voir, le chef d'état-major vient le voir. Il y a un monsieur qui s'appelle Avraham Fried qui vient des États-Unis chanter à côté de son lit d'hôpital. Et vous savez, toutes les histoires qu'on raconte sur les soldats ne se finissent pas toutes mal. Et à force de tfilot, Akadosh Baruch Hu décide de nous le ramener. Et il se réveille. Commence à ce moment-là un processus de retour à la vie. C'est pas facile. Il réussit à se remettre debout. Tout le monde vient le voir et lorsqu'il arrive à sortir de l'hôpital, pour la première fois, il est debout. Le chef d'état-major va essayer de le saluer. C'est lui qui le saluera. Il va pouvoir finalement rentrer chez lui. Premier retour à la maison. Premier retour à la maison avec sa femme après avoir quitté le lit d'hôpital, comme vous voyez là. Il signe sa lettre de sortie. Il se remise en forme avec son père. Parce que là, tout va bien. Le Ramatkal de l'époque. Et voilà, on rentre à la maison. La première fois qu'ils sont à la maison. Et quand on a des gens comme ça qui nous inspirent la vie, voilà ce qu'il fait lorsqu'il peut remettre ses vêtements, son uniforme, il retourne avec ses hommes. Les gens qui nous inspirent tellement la force, la vaillance, la vie, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il veut que ces gens-là continuent à nous inspirer. Et donc, eh bien, un an plus tard, un an après sa convalescence, après avoir reçu plein de prix, plein de livres, plein de ce que tu veux, arrive le plus grand cadeau de l'avenir du peuple juif, mes amis, de nos soldats vaillants d'Israël, de nos héros d'Israël. Lorsque Aaron Karov, entre deux interventions, il va motiver ses troupes, eh bien, il ramène son fils à la maison. Les amis, c'est ça l'histoire des héros d'Israël. Bayamim haem ubazman hazeh. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu Yehuda Maccabi, et il y a nos soldats extraordinaires qui, tous les jours, nous montre ce que c'est que la Emouna, ce que c'est que la grandeur, ce que c'est que la Kdusha. Et en les voyant, eh bien, ça nous donne de la force. Et quand on les verra allumer les Chanoukiot énormes dans la bande de Gaza, après avoir inauguré la première synagogue, Bet Hana, dans le quartier de Bet Hanoun à Gaza, vendredi, eh bien, on pourra tous se réunir autour de l'allumage des lumières de l'espoir, des lumières de la victoire, Bechag Hanouka, dans la bande de Gaza, Bimera Beyamenu. Amen.